Bonjour à toutes et à tous, particulièrement celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. On va continuer ce matin dans notre parcours, notre survol du livre de l'Exode. Je ne vais pas ce matin lire une grande portion du livre de l'Exode, mais j'aimerais plutôt mettre le focus sur certains aspects des chapitres 25 à 27. Alors je vous invite, si vous avez vos Bibles, à les ouvrir. Comme ça, vous pouvez suivre les références auxquelles je ferai dans le développement. Et surtout, j'espère que cette mise en lumière de ces aspects vont vous donner le désir, en rentrant cet après-midi, de peut-être parcourir ces trois chapitres en ayant en tête ce qu'on aura évoqué ce matin pour déjà vérifier ce que j'ai partagé, et puis surtout de voir, de confirmer ces belles choses qu'on va mettre en relief. Avez-vous remarqué à quel point tout au long de notre vie, nous dépensons une énergie colossale pour essayer de nous sentir vraiment bien quelque part, pour rendre notre existence un petit peu plus parfaite? Alors, on change d'appartement parce que celui-là est trop petit. Puis, on déménage à la campagne, à Cré par exemple, parce que la grande ville, c'est trop bruyant. On change de travail parce que là-bas, on ne nous comprend pas. Puis, on envisage même de partir à l'étranger, persuadé peut-être que ailleurs, ce sera mieux. On cherche désespérément ce chez-soi idéal. Et ce chez-soi, ça passe parfois par ce qui est beau. Alors on passe des heures sur Pinterest, on regarde des émissions de décoration, on refait la cuisine, on repeint les murs, on transforme son jardin en petite oasis, on achète des coussins douillets, des bougies parfumées, pour créer l'espace le plus cosy possible. On veut que notre maison sente bon, qu'elle soit chaleureuse, qu'on s'y sente bien dès qu'on en franchit la porte. Mais se sentir bien chez soi, c'est aussi se sentir en sécurité. Et oui, on pose des portes blindées, on installe des alarmes, des détecteurs de fumée, bon, ça c'est obligatoire. On veut un lieu où rien ne peut nous arriver, où on peut dormir tranquille sur nos deux oreilles, où on peut baisser enfin la garde. Et puis, il y a aussi ce désir profond de présence, de relation. On veut avoir autour de nous des personnes qui nous aiment vraiment, qui reste fidèle même quand on est à cran. On rêve d'un conjoint qui nous comprend sans qu'on ait à expliquer, d'une famille où règne l'harmonie et le rire, d'amitiés solides qui durent des décennies. Et ça se voit aussi dans nos vacances. On cherche le petit coin de paradis parfait. On compare des dizaines de gîtes, on lit 50 avis TripAdvisor, on zoome sur les photos pour vérifier que la plage est vraiment belle, que la piscine est assez grande ou que le camping n'est pas trop fréquenté. Mais voilà le problème. Chaque fois qu'on croit avoir touché ce petit bout de paradis, la maison rénovée, la famille stable, une carrière qui décolle. Il y a ce caillou qui vient se glisser dans la chaussure. Un cambriolage malgré l'alarme, une maladie qui arrive sans prévenir, une dispute qui abîme une relation, un licenciement inattendu. Et même quand tout va bien en surface, il reste au fond de soi, ce goût d'inachevé, cette nostalgie, comme un vide intérieur qui ne s'explique pas. Un auteur chrétien, C.S. Lewis, l'a bien décrit comme le mal du pays pour un endroit où nous ne sommes jamais allés. Nous avons été créés pour vivre en communion parfaite avec Dieu. C'est ça, le paradis originel. Mais ce paradis a été perdu à cause de notre péché, de notre révolte contre Dieu. Et depuis toute l'humanité, de façon consciente ou non, cherche à le retrouver. Et c'est exactement à cette quête universelle que répond notre passage d'aujourd'hui. À première vue, quand on lit les chapitres 25, 26 et 27 du livre d'Exode, ça peut paraître fastidieux. On a toute une série d'instructions pour construire le tabernacle, qui est en fait une grande tente. Parce que, rappelez-vous, le peuple d'Israël est nomade dans le désert à sa sortie d'Égypte. Et on y voit toute une liste de dimensions précises, des listes de matériaux, des quantités de descriptions d'objets. Pourtant, après avoir délivré son peuple de l'esclavage et scellé une alliance avec lui sur le mont Sinaï, Dieu dit à Moïse, « Ils, donc les Israélites, me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25, 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Beaucoup affirment qu'on a ici le verset le plus important de toute la Bible. C'est le résumé du projet de Dieu pour l'humanité. Un Dieu qui désire habiter parmi son peuple, qui veut vivre au cœur de sa vie. Et quand vous parcourez ces trois chapitres, vous verrez que la description du tabernacle ne commence pas comme une visite guidée, où on rentre par le jardin, on visite l'extérieur, et puis après on rentre dans la maison. Non, là on est directement plongé dans les détails de l'intérieur, et puis il y a comme un dézoom pour aller vers l'extérieur. Et la première chose qu'on peut observer, c'est le mobilier du tabernacle, et de voir que son mobilier nous fait sentir si près de la maison. Chapitre 25. Le tabernacle n'est pas un simple lieu de culte. En fait, si on regarde bien, on a dans la description du tabernacle un écho du Jardin d'Éden, perdu, et en même temps une bande-annonce du paradis qui sera restauré et qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse et que sera la Nouvelle Jérusalem. Regardez d'abord la liste des matériaux qu'on voit dans Exode chapitre 25, des versets 3 à 7. Elle commence, donc c'était des matériaux que Dieu a demandé aux Israélites de rassembler pour la construction du tabernacle. Cette liste commence par l'or et elle finit par la pierre d'onyx. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Genèse chapitre 2, verset 12, description du Jardin d'Éden. « L'or de ce pays est bon. » Là se trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Et maintenant, on va regarder à la fin de la Bible, Apocalypse 21, 18 à 20, verset 18 à 20, qui décrit donc cette nouvelle Jérusalem en or pur, orné de toutes sortes de pierres précieuses, dont la sardonyx, un mix de sardoine et d'onyx. Et puis, zoom sur l'Arche de l'Alliance, Exode chapitre 25, 10 à 22. Cette Arche de l'Alliance a les proportions d'un marchepied royal. Le véritable roi, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. dans ce coffre de l'Alliance, dans cette arche de l'Alliance, Dieu va y faire placer les tables de la loi. Dieu gouverne son peuple par sa parole. Mais au-dessus de ce coffre, il y a le couvercle qui est aussi appelé le propitiatoire. Un mot qui signifie couverture. Dieu couvre la condamnation que notre désobéissance mérite. Il règne à la fois par la justice, Dieu est un Dieu juste, mais Dieu règne aussi par la grâce. Encore une fois, dans le jardin d'Éden, on voit que Dieu marchait et parlait avec Adam et Ève dans la fraîcheur du jour. Et en Apocalypse chapitre 22, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit ? Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ensuite, nous avons la table des pains, Exode 25, verset 23 à 30. Dans presque toutes les maisons, il y a une table. C'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on partage les repas, c'est là qu'on rigole, qu'on pleure. Ici, dans la maison de Dieu, il y a aussi une table, avec 12 pains permanents, un pour chaque tribu d'Israël. Dieu nous invite à la joie en sa présence. Il est cet hôte généreux qui nourrit, qui protège, qui prend soin de chacun, et cela a été encore rappelé ce matin. Et c'est ça la promesse du salut, pouvoir un jour manger, vivre et se réjouir dans la présence de Dieu. Encore une fois, Apocalypse 22:2 nous parle de l'arbre de la vie donnant 12 récoltes par an pour la guérison des nations. Enfin, il y a le chandelier à 7 branches. Exode chapitre 25, versets 31 à 40. Sa description évoque un rappel, clairement l'image de l'arbre de vie qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Et surtout, il apporte une lumière constante. Il devait rester constamment allumé. La maison de Dieu n'est jamais, jamais, jamais sombre. Dieu est celui qui éclaire nos chemins, qui nous aide à voir clair, à distinguer le bien du mal. Regardons encore Apocalypse. Chapitre 21, versets 23 à 25. La ville, la Nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Imaginez entrer chez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Chaque objet parle un petit peu de cette personne. Une bibliothèque pleine de livres montre certainement sa passion pour la lecture. Des photos de famille racontent un petit peu de son histoire. Une cuisine bien équipée révèle le plaisir de cuisiner. Eh bien, le tabernacle, c'est exactement ça. Chaque objet révèle quelque chose de qui est Dieu. Par la lumière, Dieu affirme « Je suis la vie qui ne s'éteint jamais. » Par la table et les pains, « Je suis celui qui aime la communion et je suis celui qui pourvoit à vos besoins. » Et par l'arche, « Je suis ce roi qui règne avec justice et avec grâce. » Vous voyez comme le mobilier du tabernacle nous fait sentir si près de la maison. Comme si on touchait quelque part presque du doigt ce pourquoi nous avons été créés. Mais le tabernacle a un côté paradoxal. Si son mobilier nous fait sentir si près de la maison, son architecture nous fait sentir si loin de la maison. Chapitre 26 et 27. Là, on sort de ce mobilier chaleureux pour regarder un petit peu plus à la structure globale. Et là, le constat est assez frappant. On n'entre pas comme on veut dans la présence du Dieu saint. Le tabernacle reproduit en quelque sorte, et je ne sais pas si vous étiez présent pour cet enseignement, mais les trois zones de sainteté du mont Sinaï. Rappelez-vous, au sommet du Sinaï, il n'y avait que Moïse qui pouvait monter, au plus proche de la présence de Dieu. Sur les flancs de la montagne, les anciens d'Israël pouvaient s'approcher. Et le reste du peuple, au bas de la montagne, ils ne devaient surtout pas monter sur le flanc. Dans le tabernacle, on a donc ces trois zones reproduites. Bien sûr, le lieu très saint, avec l'arche de l'Alliance, le lieu de la présence de ce Dieu saint. L'accès à ce lieu, quasiment impossible. Seulement une personne, une fois par an, le grand prêtre, on le verra plus tard. Seul le grand prêtre entre une fois par an après des rites très stricts de purification. Après le lieu très saint, il y a bien sûr le lieu saint. C'est là que se trouve le chandelier dont on a parlé et la table avec les pains. Là, il y a un petit peu plus de monde, mais pas tant que ça. Ce sont les prêtres qui peuvent y servir quotidiennement. Mais entre ce lieu très saint et ce lieu saint, entre ces deux espaces, il y a un rideau épais. Et Dieu commande, concernant ce rideau, « Tu y feras broder des chérubins. » Exode 26, 31. Pourquoi faire broder des chérubins sur ce rideau de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint ? Eh bien, là encore, c'est un écho direct à Genèse 3. Après la chute, quand Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden, Dieu fait placer deux chérubins avec une épée flamboyante pour interdire l'accès à l'arbre de vie. Le message est clair. Le chemin vers la présence de Dieu est toujours bloqué à cause de notre péché. Et enfin, le dézoom se poursuit, je passe les détails bien sûr des nombreuses tentures, des tissus qui vont former le tabernacle, plusieurs épaisseurs, et on arrive vers le parvis extérieur bien clôturé. Là, le peuple peut y accéder, mais la première chose qu'on voit en entrant dans le parvis, l'entrée se trouve là, la première chose qu'on voit, l'autel des sacrifices. Tout de suite, c'est la vue et les odeurs du feu, du sang, des offrandes répétées jour après jour. Avant de s'approcher de Dieu, il faut régler la question du péché. Est-ce que vous ressentez la tension ? Ce tabernacle est à la fois une immense invitation où Dieu affirme « Je veux habiter parmi mon peuple » et en même temps une limite sévère où Dieu dit en quelque sorte « N'approchez pas, sinon vous mourrez. » En fait, c'est comme si vous étiez invité à l'Élysée ou au Vatican. Il y a des grilles, il y a des gardes, il y a un protocole très strict. Vous ne poussez pas la porte du bureau du président en short et en tongs. Mais la distance avec un chef d'État n'est rien comparé avec la distance morale qui nous sépare d'un Dieu saint. Et c'est là, en fait, que notre quête moderne du paradis se heurte parfois à un mur. On essaye de reconstruire l'Éden à notre sauce, par le confort matériel, par une écologie militante, par de la politique, par du développement personnel. Mais partout, 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 on emporte avec nous notre problème de cœur, notre boue intérieure, notre égoïsme, notre orgueil, notre envie, notre autosuffisance. Et sans solution au péché, on reste dehors, même dans la plus belle des maisons du monde. Alors, est-ce qu'on est condamné à ce constat ? Heureusement, non. Parce que le plan de Dieu ne s'arrête pas à Exode 27. Tout ce système, ce tabernacle qu'il fallait monter et démonter constamment, tous ces sacrifices répétés n'étaient qu'une ombre, une maquette en quelque sorte, pointant vers la réalité ultime, Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, dans son évangile, au chapitre 1, verset 14, le dit de manière magnifique. Et je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Et j'espère que dans ce passage, dans tous ces allers-retours qu'on fait de la Genèse, l'Exode à la Genèse, au Nouveau Testament, au dernier livre de l'Apocalypse, cela nous montre aussi la cohérence qu'il y a dans ce livre de la Bible, contient ces 66 livres, mais où on voit que tout est lié, tout est uni. Jean chapitre 1, verset 14, « La parole, donc Jésus, a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Et en grec, le verbe pour habiter, c'est « elle a dressé son tabernacle, elle a tabernaclé parmi nous. » Jésus est le véritable tabernacle, la maison de Dieu par excellence, sa présence descendue sur terre. Alors, reprenons les éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure. Le chandelier, Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Jésus est la lumière de la vie qui ne s'éteint jamais. La table des pains, Jean chapitre 6, verset 35, Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il nourrit notre faim la plus profonde. Et cette faim n'est pas matérielle, mais elle est spirituelle. L'arche de l'Alliance, en Jésus, nous vivons sous le règne de Dieu. L'autel des sacrifices, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Et ce voile brodé de chérubins qui barrait l'accès au lieu très saint, eh bien, au moment où Jésus expire sur la croix, Matthieu nous dit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » La barrière est rompue de manière définitive. Les chérubins ont rengainé leur épée. La maison est à nouveau accessible. Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Jésus est aussi le lieu très saint. Éphésiens 2, 18, à travers lui, à travers Christ, nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Vous voyez, cet avant-goût qui était le tabernacle devient réalité. Le tabernacle était l'ombre de la maison. Jésus est la maison elle-même. En venant à lui par la repentance et par la foi, nous rentrons enfin chez nous. C'est ça, le vrai paradis, la présence éternelle de Dieu. C'est pour ça que nous n'avons plus besoin de temple, plus besoin de tabernacle pour nous réunir. Et d'ailleurs, si on voyage de nouveau dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem est décrite ainsi. Apocalypse, chapitre 21, verset 22. « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Apocalypse, chapitre 21, verset 2, 3. « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez encore ce mal du pays ? Cette aspiration profonde que rien ici-bas ne comble totalement. Je reviens sur cet auteur chrétien, C.S. Lewis, qui a écrit plusieurs livres. Il exprime si bien, et je le cite, « Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. » Votre demeure véritable est en Jésus-Christ. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à y entrer par la foi. Et si nous sommes déjà en Christ, je nous encourage à nous y installer. Apprenons à nous satisfaire pleinement de lui. Délectons-nous chaque jour de sa vie en nous. Nourrissons-nous de sa parole. Jouissons toujours plus de cet accès libre au Père, de cette intimité avec lui. Et puis, chérissons encore plus l'Église. Vous savez, on a fait circuler un questionnaire, et je ne veux pas trop spoiler la réunion du 25. Mais parmi les choses qui sont ressorties dans cette question de « Quelle serait pour vous l'Église idéale dans 5 à 10 ans ?», un des éléments qui ressort fortement, c'est le désir de vivre l'Église comme une famille. Quand nous nous rassemblons avec Christ au centre, que ce soit à 3 ou à 80, que ce soit dans un salon ou dans une salle des fêtes, de manière formelle ou informelle, nous sommes déjà un petit peu chez nous. En tout cas, plus profondément que dans n'importe quelle réunion de famille biologique. Enracinons-nous dans notre vraie famille. Apprenons à aimer Christ et à le servir ensemble. Quelle que soit la taille de votre lieu de vie, que vous soyez dans un studio, dans un appartement, dans une maison, j'aimerais terminer en citant cet encouragement de ce pasteur théologien, Tim Chester, et je cite ici ce qu'il dit. « Transformez avec amour votre foyer pour en faire un lieu accueillant pour Christ. Ouvrez votre maison à votre église, à vos voisins, aux personnes démunies. Mais veillez à ce que votre maison serve votre engagement plus qu'elle ne l'entrave. N'en faites pas un lieu sacré, un château fort avec un pont-levis. Assurez-vous que Christ entre en premier et que votre porte reste toujours ouverte. Ne vous souciez pas de l'ordre et de la propreté au point de mettre les gens mal à l'aise. Ne vous occupez pas de votre petite famille au point d'en fermer l'accès aux autres. Ne laissez pas les activités de vos enfants vous voler tout votre temps au point d'en manquer pour votre vie sociale et pour la mission. Et il évoque, je fais une parenthèse ici, la mission de faire de toutes les nations des disciples. Assurez-vous que le foyer qui compte vraiment pour vous est celui que vous avez retrouvé en Christ. Que ce message soit un encouragement pour nous tous en tant qu'Église. Ma prière, c'est qu'à travers notre vie ensemble, encore cette année, à travers cette famille que nous formons autour de Jésus, nous puissions offrir à ceux qui nous entourent et qui ne font pas encore partie de cette famille un avant-goût de leur véritable maison. Quand nous voyons vivre, ils se disent « C'est là que je veux être, c'est là que je veux entrer. » Non pas à cause des activités que nous proposerons ou des services que nous rendrons, mais parce qu'ils y perçoivent la présence de Jésus. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce projet qui nous dépasse et qui est tellement merveilleux, ce désir d'habiter, de faire ta demeure parmi ces êtres humains que tu as créés. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que nous en avons besoin. Nous avons été créés par toi et pour toi, pour être dans cette relation avec toi. Merci pour le sacrifice de Jésus qui s'est produit une fois pour toutes et qui est pleinement suffisant pour nous permettre d'être restaurés dans cette relation avec toi, de retrouver cet accès à cette présence. Merci pour Jésus qui est cette lumière, qui est ce pain qui rassasie, qui est celui qui règne. Et merci pour ce qu'on a encore évoqué ce matin, ce que sera ce royaume, cette vie sous ton règne, une vie où il n'y aura plus ni méchanceté, ni mal, plus besoin d'alarme, plus besoin de détecteurs de fumée et autre chose, où les relations seront parfaites. Seigneur, je te prie que nous puissions grandir en Église encore cette année pour devenir toujours plus et de manière plus prononcée encore cette famille unie autour de Christ, où nous prenons soin les uns des autres, où nous veillons les uns sur les autres, où nous nous encourageons dans la foi les uns avec les autres. Et Seigneur, que par ta grâce, cette lumière qui brille au travers de notre vie familiale, de nos relations, puisse avoir un impact dans la vie de celles et ceux qui nous observent, qui nous voient, et qu'ils aient que cela génère par ta grâce en eux ce désir de te connaître, de te rencontrer et de rentrer à leur tour à la maison. Seigneur, on est dans cette période de déjà et de pas encore, et l'Église n'est pas encore parfaite, même si elle est déjà en toi. Et pardon pour toutes les fois où nos relations ne sont pas toujours au beau fixe, on peut se blesser, mais merci parce qu'on peut, par ta grâce aussi, vivre ce pardon, et on peut se relever et continuer d'avancer ensemble avec toi. Au nom de Jésus, Amen.